Merci Noël de venir nous parler de Mon Auriol, un roman de Maupassant qui est trop souvent mis de côté dans la zone secondaire de sa production. Vous êtes maître de conférence à l'Université Picardie Jules Verne, donc à Amiens. On vous connaît hein, comme spécialiste du 19e siècle, de Maupassant, et notamment aussi sur le plan numérique d'une innovation très précoce en termes numériques, puisque Maupassant, vous l'avez éditorialisé 2004. En 2004, c'est-à-dire bien avant Archise. Vous aviez 10 ans d'avance sur nous. Et moi, je me souviens avoir navigué sur votre site avec beaucoup d'intérêt pour découvrir les textes de Maupassant et des documents importants. Vous travaillez sur Maupassant, aussi sur Ekman Chatrian. Vous avez un essai même prochainement apparaître sur Ekman Chatrian aux Belles Lettres. Et concernant Maupassant en particulier, vous êtes aussi une chercheuse en genèse et en génétique, puisque vous allez publier le dossier administratif du docteur Blanche.
Alors, c'est Maupassant à la clinique du docteur Muriot.
D'accord.
Voilà.
Et ça sort quand?
Ça sort dans les mois qui viennent, là. Ça y est, c'est signé, c'est
bon. Voilà, donc un document inédit et sans doute passionnant sur la fin de vie de Maupassant. Eh bien, écoutez, Noël, je vous donne la parole en vous remerciant encore une fois d'être avec nous aujourd'hui.
Mais je tiens à vous remercier également de votre invitation, puisque la dernière fois où j'ai parlé au sens de l'Est, en 2002, donc ça fait déjà 15 ans. Je tiens aussi à excuser l'absence de Christophe Refet, qui est retenu par un conseil de laboratoire et qui m'a vraiment demandé d'excuser son absence. Donc, Mon Auriol n'est pas le roman le plus connu de Maupassant. Il a été éclipsé par Une vie, Belle amie et Pierre et Jean. Et il ne fait pas partie de ce qu'on pourrait appeler la seconde période de Maupassant romancier psychologique, comme le sont Fort comme la mort et Notre cœur. L'auteur qui écrivait que son troisième roman n'était ni un chef-d'œuvre, ni son préféré, est à l'origine du moindre impact qu'il a aujourd'hui. À son éditeur, Victor Havard, il confiait le 17 mars 1890 « Rappelez-vous votre emballement pour Mon Auriol que je n'aimais pas, moi, et qui ne vaut pas grand-chose. » Mon Auriol constitue pourtant une œuvre charnière vers Pierre et Jean et les romans psychologiques d'après 1887. La genèse en est fort riche et l'on trouve très tôt de nombreux avant-textes. Sa réception contemporaine et posthume, notamment les adaptations et les éditions, ne sont pas non plus sans intérêt. 2017, année des 130 ans de l'œuvre, est l'occasion de faire le point sur la création, la réception et le devenir médiatique de ce roman un peu oublié de Maupassant. Donc, lorsqu'en 1887, Mon Auriol paraît en volume, Maupassant est un auteur reconnu par ses nombreux contes et nouvelles, parus dans la presse, mais aussi par ses chroniques et ses romans, Une vie en 1883, Belle amie en 1885. Il est célèbre et célébré et gagne très bien sa vie. Le roman est composé de deux parties, de 8 et 6 chapitres chacune. Il repose sur deux éléments essentiels, une histoire d'amour et la naissance d'une ville d'eau. L'intrigue est donc double, sentimentale et financière, l'amour se trouvant bientôt entremêlé à l'argent. Christiane de Ravenel a épousé William Andermatt, juif fortuné, pour redorer le blason familial. Sujette à des malaises, elle souhaiterait être mère et va prendre les eaux du village d'Anval, en Auvergne. Son mari, mais aussi son père, le marquis de Ravenel, et son frère, Gontran, viveur invétéré et antisémite, l'accompagnent. Elle se soumet à de multiples examens, parfois farfelus, mais vrai, hein, comme le dessin des organes sur le peignoir blanc, et fait la connaissance de Paul Bretigny, un ami de son frère, venu soigner un chagrin d'amour. Il tombe amoureux, et de cette union fugace naîtra une fille, Arlette. Durant ce temps, Andermatt spécule sur les terrains où une source a jailli de l'explosion d'un morne appartenant au père Auriol. Il n'aura de cesse d'acheter ces terrains à vil prix pour créer une ville d'eau réputée, Mon Auriol, non sans avoir poussé Gontran à épouser l'aînée des filles Auriol, la plus dotée en terrain. La cadette, Charlotte, étant consolée par Paul Bretigny, qui l'épouse au désespoir de Christiane. Ayant accouché d'une petite Arlette, dont le père est Bretigny, elle ne l'autorise pas à le voir, la fin est donc ouverte sur l'avenir, comme dans Une vie et belle amie. Que deviendra la petite Arlette? Le roman se termine, mais la vie continue. Même si Mon Auriol n'a pas d'ambition naturaliste et documentaire, il montre les tractations des financiers parisiens auprès des paysans auvergnats propriétaires des terrains, avec l'appui des médecins locaux, notamment du docteur Bonnefille. Ajoutons que le roman présente les loisirs des curistes et une galerie de médecins caricaturaux, ainsi que des morceaux de bravoure, la scène érotisée de Christiane Aubin au chapitre 4 de la première partie, et son envers, la soupe du pauvre, je cite, où trempe le père Clovis, vieux paralytique soi-disant miraculé grâce à la sauce. Ajoutons également de remarquables descriptions de paysages auvergnats. Monriol, qui connut 40 tirages l'année de sa parution, est pourtant l'un des romans de Maupassant les moins connus du public actuel et les moins étudiés, avec Fort comme la mort, 1889, et Notre cœur, 1890. D'où vient cet oubli? Peut-être d'un faisceau de malentendus. Le troisième roman de Maupassant ne se résume pas à une banale histoire d'amour, comme il a parfois été dit, et Maupassant lui-même est à l'origine de ce malentendu. Cette œuvre, beaucoup plus décente que la précédente, pourrait être lue par toutes les femmes, écrit-il à Stassoulevitch. Puisque Christiane, à la fin du récit, n'a rien de la falote Jeanne de Lamare, fortifiée par la maternité, la mère d'Arlette repousse son amant et prend son destin en main, tandis que l'épouse bafouée d'une vie subit son sort. Autre temps, autre mœurs. Ce n'est pas non plus une œuvre antisémite, autre idée répandue. Certes, l'auteur s'appuie sur les clichés et les préjugés de son époque, mais il serait faux de lui prêter les pensées et les propos insultants de Gontran de Ravenel envers son beau-frère anti-israélite. Joueur invétéré, vivant au crochet de sa famille, Gontran est un personnage antipathique, tandis qu'Andermatt, durant l'affaire et nouveau Crésus obsédé par l'argent, s'humanise peu à peu. Il apparaît au fil du roman comme un homme droit et généreux avec les siens. Il sera un bon père pour la fillette que lui offre sa femme. Maupassant lui donne d'ailleurs l'occasion de se défendre dans une tirade tout à fait intelligente qui ridiculise les antisémites au chapitre 2 de la seconde partie. Je cite « Pardon, mon cher, deux mots sur une autre chose. J'ai l'air de ne pas comprendre, mais je comprends très bien les allusions dont vous me piquez sans cesse, et je n'en veux plus. Vous me reprochez d'être juif, c'est-à-dire de gagner de l'argent, d'être avare, d'être spéculateur à friser la filouterie. Or, mon cher, je passe ma vie à vous prêter cet argent que je gagne non sans peine, c'est-à-dire à vous le donner. Enfin, laissons. Mais il y a un point que je n'admets pas. Non, je ne suis point un avare. La preuve, c'est que je fais à votre sœur des cadeaux de 20 000 francs, que j'ai donné à votre père un Théodore Rousseau de 10 000 francs, quand il avait envie, que je vous ai offert en venant ici le cheval sur lequel vous avez été à Roya tantôt. En quoi donc suis-je avare? En ceci que je ne me laisse pas voler. Et nous sommes tous comme ça dans ma race, et nous avons raison, monsieur. Je veux vous le dire une fois pour toutes. On nous traite d'avare parce que nous savons la valeur exacte des choses. Pour vous, un piano, c'est un piano, une chaise, c'est une chaise, un pantalon, c'est un pantalon. Pour nous aussi. Mais cela représente en même temps une valeur marchande appréciable et précise qu'un homme pratique doit évaluer d'un seul coup d'œil, non point par économie, mais pour ne pas favoriser la fraude. Que diriez-vous si une débitante de tabac vous demandait 4 sous d'un timbre-poste ou d'une boîte d'allumettes bougies? Vous iriez chercher un sergent de ville. Monsieur, pas pour un sou, oui pour un sou, tant vous seriez indigné. Et cela parce que vous connaissez par hasard la valeur de ces deux objets. Eh bien moi, je sais la valeur de tous les objets traficables. Et cette indignation qui vous saisirait si on réclamait 4 sous sur un timbre-poste, je l'éprouve quand on me demande 20 francs pour un parapluie qui en vaut 15. Comprenez-vous? Je proteste contre le vol établi, incessant, abominable des marchands, des domestiques, des cochers. Je proteste contre l'improbité commerciale de toute votre race qui nous méprise. Je donne le pourboire que je dois donner relatif au service rendu, et non le pourboire de fantaisie que vous jetez, sans savoir pourquoi, et qui va de 5 sous à 100 sous, selon le caprice de votre veuve. Comprenez-vous? Il faut lire Monriol comme également une œuvre comique, où la satire le dispute au grotesque. Maupassant nous fait vivre la ruée vers l'or des sources, vers, je cite, une Californie de comiques. L'effervescence des paysans auvergnats, croyant tenir un bon filon, marchandant dans un patois de pacotille, et vendant leurs filles en même temps que leurs terres aux messieurs titrés de la capitale, mais aussi la fièvre thermale qui s'empare des riches parisiens venus faire une cure aux effets peu avérés et se divertir pour suivre une mode lancée par Napoléon III. La station fictive de Monriol est un théâtre de carton-pâte où s'affairent des personnages de vaudeville. Le lecteur assiste ainsi, je cite, à la sublime comédie des malades et des médecins dans un établissement thermal où le gardien est un ancien geôlier, patient ou plutôt client, venu soigner des maladies diplomatiques, un faux éclopé, le père Clovis, miraculé grâce au bain, dont je cite la soupe du pauvre, des galeries de médecins aux noms ridicules ou transparents, Black, Bonne Fille, Cloche, Honora, Latone, Masse-Roussel, Mazelli, Rémuseau, descendant de Diafoirus et prescrivant comme lui des traitements douteux et des tortures inutiles. Le rire n'empêche pas la peinture lucide d'une société en pleine mutation, prête à tout pour accéder au progrès. Maupassant décrit, certains diront avec pessimisme, d'autres avec clairvoyance, la puissance de la réclame et de l'argent qui abîme tout. L'amour n'existe pas, le mariage étant un marché de dupes, l'art a un prix et les musiciens sont des fantoches, les rares distractions pyrotechniques sont ratées, la tranquillité d'une bourgade est détruite pour le plaisir de quelques citadins. Cette société de la belle époque, qui a le culte du corps, est-il si éloignée de la nôtre? Les machines à muscler ne ressemblent-elles pas à celles de nos salles de sport? Les eaux thermales ont peut-être emporté les dernières illusions de l'auteur sur le monde, il nous montre aussi l'envers du décor, un milieu rural très pauvre, où il faut lutter pour survivre. Je vais peut-être vous faire passer un exemplier où il y a un certain nombre d'avant-textes, ce que j'appelle des avant-textes, du roman. La jeunesse du roman est assez limpide et indissociable de l'état de santé chancelant de l'auteur. Contaminé par le tréponème vers 1870, Maupassant a confirmation du diagnostic de la syphilis 7 ans plus tard lorsqu'il se vante à un ami d'avoir la vérole, enfin la vraie. Même s'il s'efforce d'oublier l'issue fatale, la maladie provoque périodiquement différents dysfonctionnements, alopécie, céphalée, troubles de la vue, tachycardie, maux d'estomac. En 1879, il entreprend une cure dans le Valais suisse pour apaiser les symptômes de son mal incurable, cure qui lui inspire le conte Ozo, paru dans le Gaulois le 24 juillet 1883. Jusqu'en 1891, Maupassant consultera les plus grands spécialistes et se rendra dans plusieurs villes d'eau, Châtel-Guyon, Aix-les-Bains, Plombière, Divonne-les-Bains, Champel, etc. Sur les conseils du docteur Baraduc, ami de son père Gustave et inspecteur des eaux thermales depuis 1875, Maupassant découvre l'Auvergne à l'été 83 et la station thermale de Châtel-Guyon, alors en pleine guerre des sources. Baraduc, modèle de Latonne, mais aussi sans doute d'autres médecins du roman, et le banquier Brocard, qui deviendra le personnage d'Andermatt, se livre en effet à un bras de fer avec la commune pour obtenir le monopole de l'exploitation des sources thermales. Donc vous avez ici une petite chronologie où depuis 1858, l'inauguration de l'établissement Brosson à Châtel-Guyon, qui est le premier établissement de bain de la ville jusqu'en 1886, on voit la fondation en 1875 à Clermont-Ferrand de la campagne des eaux minérales de la Bourboule, dirigée déjà par le financier Brocard. Le 30 juin 1876, la création de la Compagnie des eaux minérales de Roya, dirigée toujours par Brocard. 1878, création à Paris de la Société des eaux minérales de Châtel-Guyon par Brocard et compagnie. Donc le docteur Baraduc devient directeur de la SEM et le banquier Brocard vont développer Châtel-Guyon. En 82, donc, c'est la création de la Grande Compagnie thermale des eaux de Châtel-Guyon, comprenant les termes Henri et Sept Buvettes. La commune a été aidée par le financier parisien Marius Martin. En 83, Maupassant effectue une première cure à Châtel-Guyon pour des maux d'estomac. En avril 84, il y a le vote de la liquidation de la Grande Compagnie thermale des eaux de Châtel-Guyon. En 85, les thermes Henri sont rachetés à bas prix et ils appartiennent à la Grande Compagnie thermale et ils sont donc intégrés à la SEM par le banquier Brocard. Maupassant effectue une deuxième cure à Châtel-Guyon où il travaille sur son futur roman. En 86, Baraduc et Brocard prennent possession de la ville d'eau de Châtel-Guyon, qu'ils vont pouvoir développer. Et Maupassant fait une troisième cure afin de vérifier des détails pour son roman. Et Montriol paraît le 23 décembre en feuilleton dans Gil Blas jusqu'au 6 février 87. Et il est publié donc à cette date en volume chez Ava. Donc amusé par ces intrigues financières autour d'une ville qu'il voit se développer durant ses divers séjours, mais d'abord inspiré par les sites de la Limagne découverts lors d'excursions, le journaliste Maupassant livre un article et plusieurs contes au Gil Blas et au Gaulois. Ces écrits publiés dans la presse sont des avant-textes qui n'ont d'ailleurs jamais été repris en volume du vivant de l'auteur. N'utilisant pas la technique zolienne des dossiers préparatoires, Maupassant consigne des impressions et des sensations saisies sur le vif dans sa correspondance et des textes qu'il retravaille parfois. Il y puisera le moment venu des passages entiers pour Montriol, procédant souvent par auto-emprunt. La correspondance que nous avons à notre disposition permet de suivre la naissance et l'avancée du roman. Maupassant écrit à sa mère de Châtel-Guyon en août 85 « Ma bien chère mère, je viens de faire tant d'excursions que je n'ai pas trouvé une demi-heure pour t'écrire. J'ai vu Châteauneuf, le plus joli coin de l'Auvergne que je connaisse, vallée profonde au milieu de superbes rochers, puis Pont-Gibaud, autre vallée moins jolie, puis au-dessus de Volvic, le cratère de la Nachère, d'où l'on a un horizon extraordinaire sur la Limagne et sur le haut plateau d'où surgissent les puits. Ils sortent de ce plateau comme des clous énormes à tête tronquée. Je ne fais rien que préparer tout doucement mon roman. Ce sera une histoire très courte et très simple dans ce grand paysage calme. cela ne ressemblera guère à Bel Ami. Il y a beaucoup de monde ici, car Potin, donc le docteur Potin, a adopté cette station. Mais on s'y ennuie d'une façon si formidable que la plupart des malades n'y reviendront pas, malgré le bien que leur font les autres. Quant à moi, je compte partir mardi soir pour arriver jeudi à Étretat. J'ai grand besoin de travailler. Il est probable que j'irai à Cannes ou à Nice, si tu es à Nice, de fort bonne heure, pour y écrire d'un trait le roman que je prépare ici, afin de l'avoir fini pour l'été prochain et d'avoir libre tout cet été-là pour circuler. Ces brèves descriptions de paysages serviront de support à de plus longues dans le roman. À son ami Henri Amic, qu'il avait accompagné en Italie, il écrit quelques jours plus tard, toujours de Châtel-Guyon, « Merci mon cher ami pour votre aimable invitation et pardonnez-moi si je ne l'accepte pas en ce moment. Mon premier mois de chasse est toujours pris par 6 ouvertures successives en Normandie et il m'est impossible de changer l'ordre établi de ces chasses obligatoires. Mais j'espère bien aller vous voir au boulot dès que je serai de retour à Paris. Je viens de faire d'admirables, donc le mot est en italique, excursions en Auvergne. C'est vraiment un pays superbe et une impression bien particulière que je vais essayer de rendre dans le roman que je commence. » Une lettre à son éditeur Victor Avard de septembre 85 nous renseigne sur l'échéancier prévu dans l'écriture du roman. Donc il écrit de la Guillette, « Mon cher ami, je viens de terminer le plan de mon nouveau roman, de sorte que je n'ai rien à vous donner pour l'automne. Mon nouveau roman sera prêt pour la fin de l'été, c'est-à-dire juste dans un an. Nous mettrons en vente à la rentrée. » Ses correspondants ont la primeur de l'évolution de son roman, comme Hermine le Comte d'Unoui, à laquelle il écrit d'Antibes en mars 86. « Madame et chère amie, que vous dirais-je ici? Je navigue et je travaille. Je fais une histoire de passion très exaltée, très alerte et très poétique. Ça me change et m'embarrasse. Les chapitres de sentiments sont beaucoup plus raturés que les autres. Enfin, ça vient tout de même. On se plie à tout avec de la patience. Mais je ris souvent des idées sentimentales, très sentimentales et tendres que je trouve en cherchant bien. J'ai peur que ça me convertisse au genre amoureux. Pas seulement dans les livres, mais aussi dans la vie. Quand l'esprit prend un pli, il le garde. Et vraiment, il m'arrive quelquefois en me promenant sur le cap d'Antibes, un cap solitaire comme une lande en Bretagne, en préparant un chapitre poétique au clair de lune, de m'imaginer que ces aventures-là ne sont pas si bêtes qu'on le croirait. En juillet 86, il effectue sa troisième cure à Châtel-Guyon, d'où il écrit à son cousin Louis Le Poitevin au sujet du traitement auquel il est soumis. « Mon cher Louis, je suis mon traitement avec énergie, et je crois sentir un peu de mieux, mais depuis 2 jours seulement. Mon cœur surtout était absolument détraqué. Ma mère et moi, nous avions l'air de 2 soufflets crevés. J'avale mon tube tous les matins et je commence à y prendre un certain plaisir. On aura reconnu la fameuse sonde dite de Baraduc, qui permettait de faire des lavages d'estomac. Maupassant en fera un épisode du roman à partir de celui du conte « Malades et médecins ». Donc vous avez sur l'exemplier 2 extraits. Donc l'extrait de Malades et médecins. Donc l'extrait de En Auvergne, pardon. Et l'extrait de Malades et médecins, vous avez la. Bon, je ne suis pas sûre que ça a été photocopié dans le bon ordre. Où vous avez donc le passage du lavage d'estomac. Donc qui est repris au chapitre. Donc dans la deuxième partie de Mon Auriol. Donc il doit y avoir des crochets qui marquent le début du passage. Donc c'est à la page 2, si la photocopie est bonne. Et puis vous avez l'extrait du roman Mon Auriol, donc la deuxième partie, chapitre 1, le lavage d'estomac, que je vais lire. Et j'ai mis en gras les différents éléments qui peuvent paraître un petit peu en rapport, puisque le passage est retravaillé. Donc le passage de Mon Auriol. Je ne vais peut-être pas lire les 2 passages parce que ça serait assez long. Le docteur Latonne, l'année précédente, médisait des lavages d'estomac préconisés et pratiqués par le docteur Bonnefille dans l'établissement dont il était inspecteur. Mais les temps avaient modifié son opinion et la sonde Baraduc était devenue le grand instrument de torture, j'aurais pu d'ailleurs mettre ça en gras, du nouvel inspecteur qui la plongeait dans tous les œsophages avec une joie enfantine. Il demanda à Paul Bretigny : avez-vous jamais vu faire cette petite opération-là ? L'autre répondit : non, jamais. Venez donc, mon cher, c'est très curieux. Ils entrèrent dans la salle des douches. Où M. Riquier, l'homme au teint de brique, qui essayait cette année-là les sources récemment découvertes comme il avait essayé chaque été de toutes les stations naissantes, attendait sur un fauteuil de bois. Pareil à quelques suppliciés des temps anciens, il était serré, étranglé dans une sorte de camisole de force en toile cirée qui devait préserver ses vêtements des souillures et des éclaboussures, et il avait l'air misérable, inquiet et douloureux des patients qu'un chirurgien vient opérer. Dès que le docteur apparut, Le garçon saisit un long tube qui se divisait en trois vers le milieu et qui avait l'air d'un serpent mince à double queue. Puis l'homme fixa un des bouts à l'extrémité d'un petit robinet communiquant avec la source. On laissa tomber le second dans le récipient de verre où s'écouleraient tout à l'heure les liquides rejetés par l'estomac du malade. Et monsieur l'inspecteur, prenant d'une main tranquille le troisième bras de ce conduit, l'approcha avec un air aimable de la mâchoire de monsieur Riquier, le lui passa dans la bouche et le dirigeant adroitement, le fit glisser dans la gorge, l'enfonçant de plus en plus avec le pouce et l'index, d'une façon gracieuse et bienveillante, en répétant « Très bien, très bien, très bien, ça va, ça va, ça va, ça va, parfaitement. » Monsieur Riquier, les yeux hagards, les joues violettes, l'écume aux lèvres, haletait, suffoquait, poussait des hoquets d'angoisse, et cramponné au bras du fauteuil, faisait des efforts terribles pour rejeter cette bête de caoutchouc qui lui pénétrait dans le corps. Lorsqu'il en eut avalé un demi-mètre environ, le docteur dit « Nous sommes au fond, ouvrez. » Le garçon alors ouvrit le robinet, et bientôt le ventre du malade se gonfla visiblement, rempli peu à peu par l'eau tiède de la source. « Toussez, disait le médecin, toussez pour amorcer la descente. » Au lieu de tousser, il râlait, le pauvre, et secoué de convulsions, paraissait prêt surtout à perdre ses yeux qui lui sortaient de la tête. Puis soudain, un léger glou-glou se fit entendre par terre, à côté de son fauteuil. Le siphon du tube, à double conduit, venait enfin de s'amorcer, et l'estomac se vidait maintenant dans ce récipient de verre où le médecin recherchait avec intérêt les indices du catarrhe et les traces reconnaissables des digestions incomplètes. « Vous ne mangerez plus jamais de petits pois, disait-il, ni de salade. Oh, pas de salade. Vous ne la digérez nullement. Pas de fraises non plus. Je vous l'ai déjà répété 10 fois, pas de fraises. » Monsieur Riquet semblait furieux. Il s'agitait maintenant sans pouvoir parler avec ce tube qui lui bouchait la gorge. Mais lorsque le lavage terminait, le docteur lui eut extrait délicatement cette sonde des entrailles, il s'écria « Est-ce ma faute si je mange tous les jours des saletés que me perd la santé? N'est-ce pas vous qui devriez veiller sur les menus de votre hôtelier? Je suis venu à votre nouvelle gargote parce qu'on m'empoisonnait à l'ancienne avec des nourritures abominables et je ne suis plus mal encore dans votre grande baraque d'auberge du Mont-Oriol, parole d'honneur. » Alors vous avez vu, si vous avez regardé rapidement le passage du côté gauche, du côté gauche pour moi, mais le passage précédent, qu'il y a une reprise, effectivement, du passage. Donc on voit combien le texte initial est retravaillé, même s'il sert de support à celui du roman. On passe d'une description au présent, presque objective, en tout cas sans la moindre marque de compassion de la part du scripteur, avec le choix d'un anonyme, d'un patient anonyme, à une description au passé, vue par Paul Bretigny, qui souffre avec M. Riquier, hein, il emploie le pauvre. Le dialogue rend la scène plus vivante également. La métaphore du serpent est toujours bien présente, tandis que la référence au supplice de l'eau de l'Inquisition est rendue implicite dans le roman. On notera toujours l'opposition entre les gesticulations du patient et la tranquillité du professionnel de santé. Les premiers textes sur l'Auvergne sont bien antérieurs à 1885. Les avant-textes remontent à 1883 et contiennent des notations qui seront reprises ou non, remaniées et souvent développées dans le roman Mont-Oriol. En 1921, Albert Guérineau a étudié le travail de mosaïque, je cite, dans un article Montpassant et la composition de Mont-Oriol paru au Mercure de France, qu'il a reconstitué dans la jeunesse de Mont-Oriol. Il le considère d'ailleurs comme le dernier des romans de Montpassant qui suit cette méthode, puisqu'on n'aura pas cette reprise d'avant-texte à partir de Pierre et Jean. Les séjours de Montpassant dans les villes d'eau, notamment à Châtel-Guyon, ont donné lieu à des contes et à un article qui nourrira le roman. Donc vous avez par exemple Un vieux, qui est la première mention d'une ville d'eau imaginaire, Rondelis, en 1882, et d'autres textes, donc la chronique en Auvergne, et un conte, limite chronique, aux eaux, journal du marquis de Rosevert, humble drame, malades et médecins, le tic, Berthe, fin de saison en wagon, et mes 25 jours, qui donc sont tous parus parallèlement au roman Mont-Oriol. Donc par exemple, dans le tic, qui se situe à Châtel-Guyon, la trique du conte inspiré d'Edgar Poe est bien éloigné de Mont-Oriol, mais il est intéressant de noter l'archéologie du thème de l'Auvergne dans son œuvre, je cite « Après un dîner, j'allais faire un tour dans le parc de l'établissement thermal. Cela se passait dans une petite station d'Auvergne, Châtel-Guyon, cachée dans une gorge au pied de la haute montagne, de cette montagne d'où s'écoulent tant de sources bouillantes, venues du foyer profond des anciens volcans. Là-bas, au-dessus de nous, les dômes cratères éteints levaient leurs têtes tronquées au-dessus de la longue chaîne, car Châtel-Guyon est au commencement du pays des dômes. Plus loin s'étend le pays des pics, et plus loin encore le pays des plombs. Le puits de Dôme est le plus haut des dômes, le pic de Sancy le plus élevé des pics, et le plomb du Cantal le plus grand des plombs. » Été 85, Maupassant s'attelle à l'écriture du roman sur Châtel-Guyon, dont le nom est travesti en Enval, futur Mont-Oriol, qui sonne comme Mont d'Or. Il écrit au docteur Baraduc en 1886 « J'aurai des multitudes de renseignements à vous donner car mon prochain roman se passera dans votre pays, dans un lieu voisin qu'il nous faudra découvrir ensemble quand je vous aurai dit mon sujet. » 16 mois lui suffisent pour composer donc un récit dans lequel il transpose son expérience de curiste, notamment le terrible lavage d'estomac que nous avons vu et les belles esquisses des superbes paysages des puits qu'il a conservés dans sa mémoire ou empreintes à ses ébauches. Alors que l'intrigue se situe loin de la Normandie, le style convoque la mer, omniprésente dans les métaphores, et les Auvergnats se révèlent aussi durs en affaires que les Cauchois. Mont-Oriol parut d'abord en prix original dans le journal Gilles Blas du 23 décembre 86, en page 3, au 6 février 87. Maupassant dédicace et envoie son Mont-Oriol à Paul Hervieux, Henri Lavedan, Madame Maqueta d'Allegri, Arthur Meyer, Henri de Pen, Octave Uzanne et Émile Zola, qui avaient projeté d'écrire un roman sur le Mont d'Or et avaient pris des notes durant les années 84-85, lors de séjours en août pour soigner l'asthme d'Alexandrine. Donc je renvoie à l'article d'Henri Mitran, qui est paru dans les Cahiers naturalistes de 1958, un projet inédit d'Émile Zola en 84-85, le roman des villes d'eau, notes sur le Mont d'Or. Le sujet, dont je cite Henri Mitran, le sujet est dans l'exploitation des malades, donc qui cite Zola, les notes préparatoires, les hôteliers se les disputent, la retape par les bonnes lorsque les omnibus arrivent, réclament, etc. À Paris, la publicité d'une famille à l'autre, les embouchages dans les trains et les voitures, des malades entre eux. Partis pour un hôtel, on va à un autre. Tous mauvais d'ailleurs, les villas, les hôtels de différents ordres. Et plus loin, il faudrait quelque chose de noir dans une note terriblement comique. Ça, ce sont les notes de Zola, donc les notes sur le Mont d'Or. Poussé par Henri Séard, qui avait accompagné son père en Auvergne en 81, Zola projetait d'écrire un roman ou une nouvelle sur la course au profit au Mont d'Or, mais il a été pris de vitesse par Maupassant. Nous ne savons pas ce que Zola pensa du roman de Maupassant, il n'existe rien dans sa correspondance actuelle, mais ce qui est sûr, c'est que la publication du Mont-Oriol porta un coup fatal à cette ambition et un arrêt définitif au projet. Dans une interview accordée au journal Le Temps le 12 février 1887, sans doute à Hugues Leroux, Maupassant s'exprime sur la rédaction du roman. « C'est un livre que j'ai voulu tout de tendresse et de douceur », m'a dit Maupassant l'autre soir, quelques heures avant son départ pour Antibes, où il était pressé d'aller retrouver son canot et la mer. Je l'ai écrit presque malgré moi, après un mois de rêverie promenée à travers la Limagne dans un pays de douceur extraordinaire qui m'a enveloppé, amolli, attendri. Obsédé de cette montagne qui m'entourait, j'ai voulu écrire un roman pour ce décor, placer un amour dans ce paysage. C'est la terre d'Auvergne qui m'a dicté ce livre doux, un peu ému. Je n'y ai rien poussé très loin, ni les situations, ni les caractères. Je me suis contenté d'esquisses, peut-être par crainte, si j'allais au fond des sentiments et des désirs, d'y retrouver cette brutalité qui me crève les yeux et qui attriste tout. Pour une fois, je n'ai pas voulu me gâter mon rêve à moi-même. Je suis restée volontairement un peu superficielle, les yeux à moitié clos devant la réalité. J'ai pris plaisir à rêver mon Oriol, couché dans les bois sur cette terre qui embaume, avec les horizons bleus de la Limagne déroulés à mes pieds. J'ai tâché de mettre dans mon livre ce fond de ciel, ce parfum de terre. Et Leroux donc d'ajouter, Guy de Maupassant a l'inestimable don de voir la vie et de la faire voir. Alors je vais maintenant passer à la réception du roman, notamment dans la presse contemporaine. Donc la réception du roman est bonne, même si certains critiques évitent de donner directement leur avis sur l'œuvre en évoquant le genre du conte. C'est le cas d'Anatole France dans Le Temps du 13 février 1887, qui remonte aux origines médiévales du conte et finalement parle très peu du roman. Je cite, j'ai élagué beaucoup de son propos. « Oui, je les appellerai tous, diseurs de fabliaux, de lait et de moralité, faiseurs de sottis, de diableries et de joyeux de vie, jongleurs et vieux conteurs gaulois, je les appellerai et les défierai tous, qu'ils viennent et qu'ils confessent que leur gaie science ne vaut pas l'art savant et délié de nos conteurs modernes. Qu'ils s'avouent vaincus par les Alphonse Daudet, les Paul Arène et les Guy de Maupassant. On peut même se demander s'il l'a lu, comme France d'ailleurs l'avoue presque lui-même. Aussi bien avons-nous fait à M. Guy de Maupassant un assez beau cortège de conteurs anciens et modernes. C'est au nouvelliste que nous avons voulu rendre honneur. Il peut paraître singulier qu'on loue cet écrivain d'être un excellent faiseur de nouvelles au moment même où il publie son troisième roman. Ce n'est pas l'heure, et je conviens que je n'ai pas le génie de la propos. Il fallait considérer aujourd'hui M. de Maupassant comme romancier. Il fallait surtout parler de Mont-Oriol. La tâche n'avait rien de pénible, mais j'avoue n'avoir pas eu le temps de réfléchir assez au nouveau roman de M. de Maupassant. J'en ai à peine achevé la lecture ce matin même. Je le connais mal encore. Or, je ne sais parler que de ce que je connais bien. C'est une infirmité dont je désespère de me corriger jamais. J'ajouterai en manière d'excuse ou de consolation que la plus grande originalité de M. de Maupassant est dans la nouvelle et que là surtout est sa puissance et sa supériorité. Fin de citation. D'habitude redoutable envers les naturalistes et Maupassant, Albert Wolff livre au Figaro un article louangeur. Je cite « Aucun de nos jeunes romanciers de valeur ne m'a donné, au même degré que Maupassant, la double sensation de la comédie et de la tragédie humaine. Il y a ce double don, si rare chez un écrivain, d'attendrir le lecteur et de l'égayer, de le distraire et de le pousser à la méditation. Cette note attendrie, sans déclamation, venant après tant de pages où pétille l'esprit d'observation, clôt le livre sur une sensation durable. » Dans le journal des débats du 27 février, André Alès montre que le roman est autre chose qu'une simple histoire d'amour. Je cite « Depuis le jour où dans les soirées de Médan parut Boule de Suif, que n'a-t-on pas dit et écrit sur le robuste écrivain de talent, l'écrivain du talent du conteur, son style vigoureux et clair, la puissante sobriété de ses descriptions, l'amertume de ses bouffonneries et le tragique de ses farces. Toutes ces qualités, on les trouve dans Mon Auriol. Et quelque chose de plus encore. L'observation, sans rien perdre de sa précision, de sa vigueur, est ici moins brutale, le style moins tendu, le récit moins alerte. Ça et là des remarques presque féminines, de la grâce, de l'abandon même, de la gentillesse. L'ironie qui est au fond du conte est voilée d'une légère mélancolie. Les niaiseries sentimentales de l'amour en sont plus impitoyablement bafouées. Enfin, et ceci est bien remarquable, par-delà la scène où se meuvent les personnages, apparaissent brusquement des lointains imprévus et des lueurs d'idées générales. Il semble que ce roman, unique dans l'œuvre de M. de Maupassant, ait été pour lui comme un délassement d'imagination. On y sent cette indulgence que donne à l'écrivain, même pessimiste, l'accomplissement d'une tâche facile, allègrement exécutée d'une main légère. La critique de Brunetière, plutôt mitigée, parle de talent mais aussi de négligence. Que M. de Maupassant doive au contraire, lui, la meilleure part de son succès à cette largeur, à cette franchise, à cette belle et tranquille audace d'exécution qui caractérise son talent, c'est ce qui ne me paraît guère douteux. On retrouvera dans Mon Auriol cette qualité maîtresse du talent de M. de Maupassant, on y en trouvera d'autres, assez nouvelles chez lui, on y trouvera je ne sais quel air aussi de négligence, dont il ferait bien de se garder. Le critique insiste plus loin sur le caractère convenable de l'œuvre, moins osé que les précédentes. Sachons lui gré, d'abord d'avoir chassu pour une fois son sujet et ses personnages dans un monde où nous les pouvons suivre non seulement sans répugnance, mais encore avec plaisir. Dans quelque monde que se passent les histoires d'amour et de quelque beau nom que se décore le désir, nous le savons, c'est toujours la même histoire, comme le même dénouement. Mais la manière importe beaucoup, et dans la plupart des précédents romans de M. de Maupassant, il faut avouer qu'elle manquait de civilité. Tout aussi fort qu'une vie ou que Bel Ami lui-même, Mon Auriol est plus convenable. Puisse l'auteur me pardonner ce mot en cette façon de le louer. Aussi bien, m'empressai-je d'ajouter que les hardiesses ne manquent point dans son Mon Auriol, ni même encore par endroits quelques crudités de terme. Mais crudité ou hardiesse, je n'en voulais rien retrancher cette fois, parce qu'on ne retrancherait rien sans beaucoup nuire à l'effet, à la valeur réelle et à la psychologie, lui aussi comme M. de Bonnières et comme M. Bourget. Elle est seulement plus physiologique, et comme telle plus scientifique, si nous en voulons croire au moins les philosophes. C'est de la physio-psychologie. C'est dommage que M. de Maupassant n'ait pas assez profondément étudié ou médité son sujet. Il voulait nous montrer quelque chose de bien moderne, comme vous dites aujourd'hui. La vie naissante d'une ville d'eau, l'invention de la source, les faiseurs aussitôt accourus des quatre coins de l'horizon, les indigènes atteints à leur tour de la fièvre des spéculations, l'inauguration solennelle de l'établissement des bains avec musique, discours, bénédiction et bal au nouveau casino, les médecins, les journaux, les actionnaires surtout célébrant à l'envi l'efficacité des eaux de Mon Auriol, et les baigneurs en revenant enfin plus malades qu'ils n'y étaient allés, comme si c'était de vieilles eaux, de très vieilles eaux, déjà mortelles du temps des Romains. Une histoire d'amour s'y mêlait, deux histoires, trois histoires, qui se terminaient comme elles pouvaient, comme elles se terminent dans la réalité, par le mariage ou par l'abandon, rarement par la mort, qui ne termine rien si ce n'est peut-être la vie. Je crois aussi que M. de Maupassant s'était promis de nous égayer aux dépens de la médecine, qu'assurément il respecte, mais dont il se défie. Et tout cela commençait bien, simplement et naturellement. Mais tout cela, je ne sais pourquoi, est demeuré comme à l'état d'ébauche, ou à vrai dire de chronique. Le roman de M. de Maupassant n'est que la chronique, au jour le jour, du sujet dont nous nous attendions qu'il nous donnerait l'étude. Avec aisance, et surtout avec une clarté parfaite, quel que soit le nombre des personnages et la diversité des épisodes, M. de Maupassant prend, quitte, reprend tour à tour les différentes parties de son sujet, s'arrête ici, s'arrête là, jamais longtemps au même lieu, s'amuse ou se soulage lui-même en quelques scènes d'un comique hardi, nous fait toucher du doigt le ressort d'un caractère, esquisse un paysage au courant de la plume et d'un mouvement rapide nous entraîne vers le dénouement. Mais c'est bien de la chronique, et la rapidité de ce mouvement même ressemble trop dans mon Auriol à celle de l'improvisation. Il ajoute également que l'émotion, dont on est assez sûr avec M. de Maupassant qu'elle ne tournera jamais au sentimentalisme, voilà ce qui manquait encore à ses romans, et voilà ce que nous sommes heureux de signaler dans mon Auriol. Brunequière en vient même à se poser la question. Est-ce la fin du naturalisme, tel du moins que certains romanciers l'ont compris trop longtemps, étroitement borné dans le choix de ses sujets comme dans ses moyens d'expression, au bas comique et à la grossièreté? Nous l'espérons au moins. Aucun critique ne relève la sensualité du roman qui passe par les yeux, mais aussi l'odorat. Paul dit à Christiane « Et si vous saviez quelle jouissance je dois à mon nez? Je bois cet air-là, je m'en grise, j'en vis, et je sens tout ce qu'il y a dedans, tout, absolument tout. Tenez, je vais vous le dire. D'abord, avez-vous remarqué, depuis que nous sommes, que vous êtes ici, une odeur délicieuse, à laquelle aucune autre odeur n'est comparable, si fine, si légère, qu'elle semble presque, comment dirais-je, une odeur immatérielle? On la retrouve partout, on ne la saisit nulle part, on ne découvre pas d'où elle sort. Jamais, jamais rien de plus, de plus divin ne m'a troublé le cœur. Eh bien, c'est l'odeur de la vigne en fleurs. Oh, j'ai été 4 jours à la découvrir. Et n'est-ce pas charmant à penser, madame, que la vigne qui nous donne le vin que peuvent seuls comprendre et savourer les esprits supérieurs, nous donne aussi le plus délicat et le plus troublant des parfums, que peuvent seuls découvrir les plus raffinés des sensuels. Et puis reconnaissez-vous aussi la senteur puissante des châtaigniers, la saveur sucrée des acacias, les aromates de la montagne, l'herbe qui sent si bon, ce dont personne ne se doute. Et puis tenez, reconnaissez-vous aussi dans l'air, sur les routes, quand il fait chaud, un petit goût de vanille, ça sent l'étable. Donc vous avez dans l'exemplier souligné les passages également où il y a l'odorat et ce parfum de vanille, donc dans Petit voyage en Auvergne, et puis dans Malades et médecins, où vous avez, par exemple dans Malades et médecins, on ne voit jamais de chevaux sauf aux diligences ou voitures de louage, et la poussière des routes quand il fait chaud et qu'elle s'envole sous les rafales porte en elle une odeur sucrée qui rappelle un peu la vanille et qui fait songer aux étables. Donc on a reprise bien sûr d'un certain nombre d'éléments. Donc l'olfactif est très présent dans ce roman, comme souvent chez Maupassant. Du côté de l'étranger, l'anglais Henry James écrit, en 1888, « Le sujet de mon Auriol est plein de bizarreries pour un esprit anglais. Ici aussi, le tableau a bien plus d'importance que l'idée qui est simplement d'un homme. S'il s'avère être un animal inférieur, il est susceptible d'aimer beaucoup moins une femme que lorsque celle-ci lui offre un gage de leur mutuelle affection. Il est à peine nécessaire de dire que l'homme et la femme, qui dans ces pages de Maupassant servent à illustrer cette intéressante vérité, ne sont liés par le mariage du moins l'un à l'autre. » Quant à la critique contemporaine, André Vial écrira « L'argent et l'or et la valeur marchande de chaque chose jouent véritablement le rôle de révélateur, c'est en italique, des caractères et de moteur de l'action plurielle. » Le roman Mon Auriol a été traduit rapidement, mais pas dans les langues habituelles. La première langue dans laquelle Maupassant a été traduit en 1881 est l'italien. Dès 87, année de sa publication, il est lisible en danois, en polonais, en russe et en suédois. Il est normal que les pays de l'Est traduisent rapidement le roman, puisque Maupassant avait envoyé le manuscrit de Mon Auriol à Stasiulevitch pour son messager de l'Europe, comme l'indique sa correspondance. Je cite, donc en 1886, « Monsieur, vous avez publié dans le messager de l'Europe mon dernier roman, Bel Ami. Aujourd'hui, je suis sur le point de publier un nouveau qui a pour titre Mon Auriol. Des propositions viennent de m'être faites de la part d'un journal de votre pays, mais je ne voudrais pas traiter sans vous avoir d'abord proposé ce roman, puisque vous avez publié le précédent. Il se compose de 2 parties, dont la première devrait paraître dans votre numéro du 15 octobre 1886, style français, car la publication commencera dans le Gil Blas le 25 octobre. La deuxième partie paraîtrait donc dans votre numéro du 15 janvier. Je vous enverrai la première partie en recevant votre réponse et la deuxième, que j'ai besoin de relire, vers le 1er novembre, style français. Je vous demanderai, comme prix, 1000 francs par partie, en argent français, soit 2000 francs pour le roman. Cette œuvre, beaucoup plus décente que la précédente, pourra être lue par toutes les femmes. Recevez, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus dévoués. » Sans réponse du messager de l'Europe, Maupassant est très dur en affaires. Il envoie une nouvelle proposition au secrétaire de rédaction du journal, toujours en 86. « Monsieur, j'ai adressé dans les premiers jours de ce mois une lettre à Monsieur Stassoulevitch pour lui demander s'il voulait publier en primeur dans les numéros du 15 décembre et du 15 janvier mon nouveau roman, Mon Auriol, dont la publication commencera dans Gil Blas le 25 décembre. N'ayant reçu aucune réponse, je me demande si Monsieur Stassoulevitch est malade, s'il est en voyage, ma lettre était en recommandé, ou si cette lettre a disparu dans les bureaux de la poste. Je lui demandais comme condition 2000 francs, soit 1000 francs par partie. Ce roman pourra être lu par toutes les femmes, il est beaucoup plus convenable que Bellamy, qui apparut également dans Le Messager de l'Europe. D'autres propositions m'étant venues de Russie, je traiterai ailleurs, si je n'ai pas reçu de réponse de vous le 1er novembre ou plus tard. Une réponse télégraphique vaudrait mieux qu'une lettre. Le roman me serait payé en argent français lorsque vous auriez reçu la deuxième partie, qui vous arriverait au plus tard le 20 novembre. La première partie est à votre disposition dès aujourd'hui, recevez, monsieur, l'expression de mes sentiments, etc. » Donc on ne sait pas finalement s'il a traité ou non avec le messager de l'Europe, toujours est-il que c'est dans les pays de l'Est et dans les pays du Nord que paraissent la plupart des traductions dont le titre original n'est pas toujours utilisé, mais qui rendent le titre beaucoup plus explicite. Donc en 87, par exemple, la traduction danoise, c'est la première traduction, et je m'excuse pour la langue danoise que je ne maîtrise pas, bien sûr, « Badeste tête, mon Auriol », qui se traduirait littéralement par la station thermale de Mont-Auriol, paraît à Copenhague en 1887. Et il s'agit de quelques extraits du roman. Ensuite paraît Vatenhoek, Kerlek, Roman, Ifa, Delard, L'eau et l'amour, roman en deux parties. Donc il y a vraisemblablement les deux parties du roman qui sont publiées en 87. Les traducteurs insistent sur le roman thermal et le roman d'amour. La traduction russe donne un titre à chacune des deux parties en rapport avec un incident du roman, l'explosion du morne, dans la première partie, et la valeur du gisement. Donc la traduction russe de 1887, Zriv, qui signifie l'explosion, et puis Zolotoy Dno, qui signifie la mine d'or, pour la deuxième partie. En 1888, la traduction espagnole et la traduction italienne de 98 mettent également en avant dans le roman le titre « Le roman d'une ville d'eau ». Par exemple, la première traduction espagnole de 88, Las Termas de Monte Auriol, de même que la première traduction italienne, L'acqua dei miracoli, donc l'eau des miracles, les termes de Mont Auriol, et puis la traduction espagnole de 1900, Las aguas de Monte Auriol, donc toujours les eaux de Mont Auriol. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que Mont Auriol soit traduit pour la première fois en hongrois en 1906, en allemand en 1906-1910, dans des œuvres choisies, Seul en allemand en 1924, en 1909 en anglais, dans des œuvres complètes, et Seul en 1911, en tchèque en 12, avec les illustrations de Ferdinand Bach, toutes sous un titre original. D'autres langues européennes, comme le néerlandais ou mondial, comme le japonais, suivent. En 17, paraît à Amsterdam, Des Badplatz Mont Auriol, La ville d'eau Mont Auriol, dans une série également de Maupassant. Et Mont Auriol est publié aussi dès 1920-22 dans les œuvres complètes en japonais, en finnois en 29, sous le titre toujours la ville d'eau Mont Auriol, en 44 en brésilien, Las Termas de Monte Auriol, et en 55 en chinois et en 80 en letton. Alors les éditions françaises de Mont Auriol donnent aussi un aperçu de la popularité du roman et de sa réception auprès du grand public. En 1887, date de l'édition originale, et 2017, on compte 23 rééditions du récit, dont 11 dans des œuvres complètes ou des volumes regroupant tous les romans. Donc depuis les œuvres complètes illustrées de Guy de Maupassant en 1901 par Ferdinand Bach, la première édition illustrée, ensuite dans les œuvres complètes de Louis Connard en 1910, et puis chez Albin Michel, et effectivement dans les romans d'Albert Marie Schmitt chez Albin Michel en 59 ou dans l'édition de la Pléiade. Pour ce qui est des éditions individuelles du roman, on trouve 12 éditions entre 24 et 2017, contre une centaine d'éditions individuelles de Bellamy sur la même période, et il y a sur ces 12 éditions 7 éditions critiques. Donc vous avez les éditions chez Flammarion, Select Collection, par exemple, qui date de 24 et de 31. Et puis vous avez le livre de poche de 1971. Et pour les éditions critiques, c'est l'édition de Marie-Claire Bancard de 1976 chez Folio Gallimard, qui est la première édition annotée. celle de Philippe Bonnefille au Livre de Poche en 88 et celle de Daniel Leuvers chez GF en 90 qui semblent faire autorité. Donc contrairement à la coutume, les éditeurs n'ont pas relancé leur vente suite à l'adaptation télévisuelle du roman de Serge Moati dans les années 80. Alors, de nombreuses œuvres de Maupassant, contes et romans ont été adaptées sous différentes formes et différents médias, peinture, théâtre, radio, cinéma, musique, télévision, bande dessinée, danse, etc. Mont-Auriol ne fait pas exception, même s'il n'est pas le roman le plus adapté. Il arrive bon quatrième derrière Belle Amie, dans l'ordre Pierre et Jean et Une Vie. Si l'on accepte les illustrations d'édition qui peuvent être considérées comme des adaptations graphiques, les dessins de Ferdinand Bach qui apparaissent à l'écran gravés par Lemoine chez Ollendorf, en 1901, le premier médium à s'intéresser à Mont-Auriol est le théâtre. La première adaptation nous vient de L'étranger, de Moscou, où est jouée une pièce en 4 actes et 12 scènes en 1938, sur laquelle je n'ai aucun élément, donc je ne pourrai pas vous en parler, et il n'existe pas d'adaptation cinématographique à notre connaissance. En revanche, on compte une BD parue dans la presse. Il s'agit d'une adaptation de Marc Andry sur des dessins de René de Sitre sous la forme de 300 bandes paru dans France Soir en 1957-1958. Donc à la même époque, La Raille accueille la première adaptation télévisuelle du roman. Elle est adaptée par Nicolas Manzari et a pour réalisateur Finot, avec comme sous-titre « Libera riduzione ai quattro puntate del romanzo omonimo di Guy Maupassant », donc « Libre réduction hein, » en 4 épisodes du roman homonyme de Maupassant, et Monica Vitti joue le rôle de Christiane Andermatt. Cette adaptation est accessible sur YouTube, donc je vous laisse aller regarder. Elle consiste en du théâtre filmé en noir et blanc, comme on en faisait à l'époque. C'est une dramatique télévisée et qui respecte l'atmosphère du roman, mais insiste essentiellement sur l'adultère et l'histoire d'amour fugace entre Christiane et Paul Bretigny. Les propos antisémites sont gommés et il existe également une adaptation slovaque à la télévision en 1974, dont je n'ai pas d'informations, et un feuilleton radiophonique de Frémy, qui a été diffusé sur Radio France le 26 octobre au 6 novembre 92, mais qui ne m'intéresse pas particulièrement. Donc je m'intéresserai davantage au téléfilm de Moati. Les 13 et 15 mars 1980, Antenne 2 diffuse un téléfilm en deux parties de 90 minutes chacune, tiré de Mont-Auriol par Serge Moati et Geneviève Dorman. Co-scénariste, Serge Moati joue également dans le téléfilm puisqu'il s'est réservé le rôle principal de William Andermatt. Catherine Arditi, donc sa femme à l'époque, qui joue le rôle de Christiane, Maurice Birot, qui interprète le marquis de Ravenel, Didier Flamand, Gontran de Ravenel, Jean-Pierre Santier, Paul Bretigny, Raymond Bussière, le père Clovis, Marianne Épin, Louise Auriol, Catherine Faux, Charlotte Auriol, François Mestre, le docteur Latonne et une pléiade d'acteurs confirmés de l'époque. Le téléfilm reconstitue l'atmosphère d'une ville d'eau à la fin du XIXe siècle, mais supprime plusieurs détails et des scènes importantes du roman. Par exemple, la présence du petit chien qui sera pulvérisé lors de l'explosion du morne dans la première partie est supprimée. Cela nuit au parallélisme établi avec l'épisode de l'âne mort rencontré par Christiane sur la route dans la seconde partie. La scène du lavage d'estomac, très importante puisqu'elle participe à la satire de la médecine thermale, est également retirée. A l'inverse, les scénaristes ont procédé à certains ajouts. La tentative de viol d'une servante à l'hôtel par Gontran de Ravenel pour montrer sa vilenie, une scène où Christiane maquille la petite Auriol, un échange lors duquel Andermatt promet à Christiane de se faire catholique, qui n'apparaissait pas dans le roman, et la cérémonie démesurée du Mont-Auriol avec buste et culte de la personnalité. Alors la cérémonie existait dans le roman, mais pas avec buste de Andermatt et culte de la personnalité, qui apparaît dans la première partie du téléfilm. Je vais essayer de vous passer ce passage. Ah, donc vous avez là, c'est vraiment présent dans le roman, cette idée de gymnastique automotrice, ancêtre de nos salles des sports, n'est-ce pas ? En un peu plus drôle. Donc après la diffusion du téléfilm, la presse se déchaîne. Jérôme Garcin conteste toute valeur au roman Mont-Auriol dans un article des Nouvelles Littéraires intitulé « Le livre, pas un chef-d'œuvre ». Mais c'est surtout la question de l'antisémitisme de Maupassant qui est lancée. Donc dès le 9 mars 1980, quelques jours avant la diffusion officielle à la télévision, Mathilde Labardoni s'entretient dans Le Figaro avec le réalisateur et reproduit son interview dans un article intitulé « Maupassant antisémite ». Donc je cite « Mon Auriol est un roman sur l'argent qui broie les êtres et les destins », dit Serge Moati. Il y a dans cette œuvre un côté millefeuille où tout s'imbrique, l'analyse sociale et l'histoire d'amour. Et il ajoute aussitôt « Mais c'est surtout le thème de l'antisémitisme qui m'a touché. » La co-scénariste Geneviève Dorman n'était pas contente de l'adaptation, trop antisémite selon elle. Elle a pourtant retiré toute allusion qui aurait pu choquer le téléspectateur moderne, notamment la comparaison d'Andermatt avec un cochon rose. Serge Moati de répondre « Nous avons à sa demande supprimé quelques séquences, comme celle où Gontran de Ravenel s'acharne à fouetter la statue d'Andermatt, son beau-frère le juif, donc ça c'était pas du tout dans le roman, de toute façon. Le plan était peut-être trop violent, mais je ne couperai jamais celui, par exemple, où les questions du livre de Drumont, La France juive, qui parut en 86, la même année que Mon Auriol. Maupassant y fait allusion très clairement. Je n'ai pas fait un film contre les juifs. J'ai transposé une histoire globalement antisémite, car antisémite Maupassant l'était de façon raisonnable et tranquille. » Fin de citation. Serge Moati force le trait d'antisémitisme présent dans le roman. En effet, Mon Auriol vient racheter Bellamy, puisque le héros juif a souvent des tirades intelligentes qui pulvérisent l'antisémitisme de Gontran de Ravenel. Par ailleurs, et Serge Moati le dit lui-même, Andermatt n'est ni tout noir ni tout blanc, il est un personnage humain. Je cite « Andermatt a de bons et de mauvais côtés. Il est à la fois intelligent et stupide, généreux et mesquin, clairvoyant et aveugle. Il y a chez Andermatt un côté enfant très pur, il parle de sa ville d'eau comme d'un train électrique. Ce qu'il aime, ce n'est pas l'argent pour l'argent, mais la force de l'argent, sa force de création et de vie. Il est comme un gros bébé joufflu, et cela Maupassant le précise. » Pour éviter tout malentendu sur la question juive, Geneviève Dorman avait gommé dans son scénario les passages les plus antisémites du roman. Je cite « Ce qui m'intéressait, explique-t-elle, c'était de montrer la cupidité du promoteur et non de réveiller la querelle antisémite. Adapter un roman, c'est en garder les traits qui sont encore actuels et non le reproduire tel quel. » Mais apparemment, cette conception n'était pas partagée par Serge Moati. Je cite « La question de fond que pose Mon Auriol, explique-t-il, c'est celle de la représentation du juif à l'écran. Jusqu'à maintenant, il y avait deux façons de la représenter, soit le bon juif qui part en camp de concentration mouton victime expiatoire, c'est le cas dans Holocauste. On ne peut qu'être avec lui, mais comme on est avec les Indiens, cette façon de montrer le juif fait pleurer les gens sur le moment, certes, mais elle ne change rien au fond. Le lendemain, on repart en campagne antisémite. L'autre image du juif à l'écran, c'est celle du dominateur. » Fin de citation. Serge Moati insiste sur la parution contemporaine de la France juive de Drumont pour donner à son téléfilm un témoignage de l'antisémitisme ordinaire sous la Troisième République. La scène de confrontation violente que vous avez vue entre Gontran et Andermatt transforme le caractère placide du personnage d'Andermatt et lui donne un côté antipathique qu'il n'a pas vraiment dans le roman. Ce parti pris bouleverse les esprits et la question de l'antisémitisme de Maupassant est relancée. En mai 1982, suite aux attentats contre des synagogues parisiennes, Robert Badinter, alors garde des Sceaux, est insulté par l'ancien ministre gaulliste Lucien Bonnet, qui utilise une phrase tirée de « Fort comme la mort » pour le qualifier de « moisissure d'une certaine société parisienne évoluée hein, », c'est entre guillemets. Peut-être influencé par le téléfilm de Serge Moati, Robert Badinter déclara en pleine Assemblée nationale, je cite « Maupassant, c'est l'antisémitisme et c'est l'extrême droite pour la philosophie politique. C'est déjà l'Action française et c'est déjà, avec le talent en plus, les tonalités de Gringoire 37 ». Fin de citation. Il est vrai que le pauvre Maupassant, auteur préféré de Valéry Giscard d'Estaing, était l'homme à abattre. Pour conclure, Mon Auriol, qui a 130 ans cette année, est un roman à relire et à découvrir. Il déploie le talent de Maupassant avec une veine comique et satirique présente dans ce seul roman et dans plusieurs contes qui sont autant d'avant-textes. Sa genèse nous a montré que l'auteur avait écrit sur un sujet, les stations thermales, qui étaient dans l'air du temps, coupant ainsi l'herbe sous le pied de Zola qui avait accumulé des notes pour composer un roman sur le Mont d'Or. Si le roman eut un succès, il donne lieu à peu d'adaptations françaises. La télévision, surtout, essaya de redonner un doctorat au roman, mais lança la polémique de l'antisémitisme de Maupassant, qui n'était pas la meilleure publicité pour l'œuvre. Marie-Claire Bancard, qui donna sa caution scientifique au téléfilm de Moati, faisait remarquer, je cite, « la maîtrise avec laquelle Maupassant avait retracé les métamorphoses d'une ville d'eau par le capitalisme ». S'il avait vécu, Maupassant aurait achevé son roman « L'âme étrangère », dont l'intrigue était située dans une autre station thermale, celle d'Aix-les-Bains. Roman sur l'argent, la montée de la bourgeoisie d'affaires, l'incommunicabilité des êtres en amour, charge contre la médecine et les malades, roman comique et sentimental, Mon Auriol se lit d'une traite et emporte le lecteur dans le tourbillon de l'histoire, tout comme l'écuriste pris dans la ruée vers l'eau. Je vous remercie.
Merci Noël. Je crois que la démonstration est faite pour nous tous. Vous avez conduit à à relire avec vous Mon Auriol et peut-être avec le désir de voir totalement le film et de relire le roman si vous ne l'avez pas relu pour aujourd'hui, ce qui était la leçon.